Voici le troisième épisode de cette série dédiée à l'année 1958, avec Europe numéro 1 qui lance ses auditeurs dans un tour du monde, Brigitte Bardot qui s'installe à Saint-Tropez à la Madrague et qui tombe amoureuse de Sacha Distel, l'arrivée à la télé des 5 dernières minutes, et un curé et un maire qui s'écharpent pour une histoire de cloche.
1958, Ondelat raconte sur Europe 1.
On croit toujours que notre génération a tout inventé. Que nenni ! Par exemple ici, à Europe 1, on n'a pas attendu les années 2000 et Pékin Express pour envoyer des candidats bourlinguer à travers le monde. Parce que chez nous, ça s'est fait dès 1958, avec un jeu baptisé « Le Tour du Monde en 198 jours », le plus grand jeu radiophonique jamais lancé. À la présentation, Pierre Desgroupes.
À vous, les studios du boulevard Haussmann.
Ce soir, nos 7 radioglobetrotteurs commencent leur veille d'armes. Dans 8 jours et 1 heure, nous serons à Orly et les moteurs des avions d'Air France tourneront déjà et nos 7 nouveaux amis seront prêts à s'élancer chacun pour soi à la poursuite des 3 millions de la Coupe Martini Tour du Monde. Ce soir, vous tous qui m'écoutez, vous pouvez, si vous le voulez, aider nos favoris, vos favoris plutôt, à gagner ces 3 millions. Il vous suffit pour cela d'écouter ce que les 7 radioglobetrotteurs et leurs avocats vont vous dire eux-mêmes tout à l'heure.
Le principe de ce jeu conçu par Jacques-Antoine paraît simple, enfin sur le papier.
Le Tour du Monde durera exactement 98 jours à dater de ce soir, 21h30. Pendant ces 98 jours, les 7 radioglobetrotteurs devront franchir la totalité des méridiens terrestres. Ils devront être de retour le vendredi 6 février 1959, avant 21h30. Chacun d'eux a reçu à son départ, ou va recevoir dans quelques instants, un billet Tour du Monde délivré par la compagnie Air France sur un itinéraire de leur choix. Un crédit de 200 000 francs leur est ouvert dès ce soir sur ce billet. Mais ce premier crédit de 200 000 francs épuisé, ils s'engagent à ne poursuivre leur voyage qu'au fur et à mesure que vous le leur permettrez vous-même par les points que vous leur attribuerez à chacun de leurs reportages.
Car au cours de ce Tour du Monde, les auditeurs sélectionnés doivent envoyer des reportages. Sachant qu'à l'époque, il n'y a pas d'internet pour réserver son hôtel et pour trouver les bons plans à l'étranger. Alors, chaque candidat est appuyé en France par un volontaire que le jeu a surnommé avocat.
Charles Morel, avez-vous fait choix d'un avocat ?
Oui, j'ai choisi M. Jean Bouquet.
Monsieur Jean Bouquet. Alors, Roger Couder, M. Jean Bouquet est à côté de vous ?
Oui, bien sûr.
Alors, en deux mots, vous nous faites son portrait.
Monsieur Jean Bouquet habite 6 rue de Franche-Comté à Paris dans le 3e. Il a 40 ans et il est commerçant. Mais monsieur, vous êtes commerçant et pourtant ce soir, vous voici avocat. Pourquoi ?
Bien, parce que je porte beaucoup d'intérêt à l'émission des radioglobetrotteurs. Et si je me suis porté comme avocat, c'est que j'imagine la solitude du candidat. Et je trouve que c'est un geste de solidarité amicale de faire l'impossible pour lui aider. Statiquement, bien sûr. C'est presque une façon d'y participer dans un fauteuil.
Bien sûr, monsieur. Eh bien, je vous demandais pourquoi vous avez choisi Charles Morel.
Entre les 7 candidats qui ont tous ma sympathie, j'ai choisi Charles Morel parce qu'il était le mieux à ma portée. Peut-être que c'est une similitude de formation et d'origine. J'ai pensé en effet que sa fréquentation des vicissitudes de la vie, enfin, vicissitudes sociales et enfin, humaines en général, lui permettait de réaliser un voyage intéressant par son objectivité. Je le sens davantage près de chaque auditeur.
En octobre 1958, 8 jours avant le départ, le candidat Charles Morel présente son projet de périple.
6 escales obligatoires sont les suivantes. Buenos Aires,
oui.
Quito, New York, Hong Kong, Rangoon, Istanbul.
Vous ne passez pas par l'Afrique, par conséquent.
Je toucherai l'Afrique et j'essaierai de la faire par mes propres moyens.
Au départ, là, ou au retour ?
Au départ.
Au départ. Par Dakar, là ?
Par Dakar.
Par Dakar. Votre billet coûte 829 000 francs, n'est-ce pas ?
C'est exact.
Vous savez donc que vous avez 629 000 francs à gagner pour aller au bout de ce billet. Vous avez bon espoir de les gagner ?
Je ferai le maximum.
Le jeu passionne les Français. C'est un phénomène. Les candidats reçoivent même des appels d'encouragement de personnalités comme Paul-Émile Victor ou le comédien Jean-Louis Barrault, qui encourage le candidat Roger Pachel, petit comédien de théâtre.
Ici Roger Pachel, qui est à l'appareil ?
C'est Jean-Louis Barrault. J'ai appris que vous partiez pour faire le tour du monde d'Europe numéro 1.
Oui, en effet.
Et j'ai appris si vous étiez comédien.
Bien sûr.
Je crois que je vous avais déjà vu il y a quelques années au Théâtre Marigny, quand vous jouiez dans Faste d'Enfer.
Oui.
C'est un bon souvenir que nous avons. Présentation mouvementée de Faste d'Enfer et du procès de Kafka.
Oui.
Et alors vous partez pour faire le tour du monde, vous partez par l'Est ou l'Ouest?
Je pars par l'Est. Oui, je descends d'abord sur Istanbul, New Delhi.
Bon.
Et je remonte sur Tokyo et l'Amérique.
Écoutez, quel que soit l'attrait que présente pour moi Paris, je vous envie un peu parce que j'ai gardé de tels souvenirs de nos voyages avec notre compagnie que mon âme de comédien ambulant est tout émoustillée par l'idée de votre départ.
Le 31 octobre 1958, les 7 Radio Globetrotters partent pour 3 mois d'aventure à travers le monde.
Le tour du monde en 98 jours va donc commencer, et l'un après l'autre, dans la nuit et jusqu'à demain matin, au fur et à mesure que s'échelonnent les départs d'avion, ils vont s'élancer à la poursuite de ces 3 millions de la Coupe Martini Tour du Monde. Tous les 7, en attendant l'heure du départ, sont en ce moment dans la salle de transit d'Air France à Orly, entourés de leurs amis, de leurs parents, et de tous les curieux, je dois le dire, qui, de passage dans cet immense caravansérail du siècle, et l'aérogare d'Orly, viennent coller leur nez aux vitres de la salle de transit attirés par cette curieuse cérémonie. Roger Coudert d'ailleurs se trouve parmi eux, je vais lui laisser maintenant la parole. À vous Roger Coudert.
En effet, il y a foule ici, et voyez-vous, le seul Radio Globetrotter qui va partir ce soir, eh bien, c'est Claude Blondel, et par une cruelle ironie du sort, alors que nous nous trouvons à Orly, il va prendre l'avion au Bourget.
Au Bourget, oui, pour Bruxelles.
Alors, vous avez un taxi qui vous attend dehors, vous avez tous vos camarades, les avocats qui sont là, tout le monde, je pense que vous lui souhaitez bonne chance. Hélène Fajol. Alors, Claude Blondel prend sa valise, Meta. Oui, il se donne rendez-vous à Singapour, mais c'est très bien. Vous prenez la valise, et il s'en va.
Et 3 mois plus tard, mission accomplie pour les 6 candidats, et la candidate Hélène, dont l'avocate souligne l'exemplarité pour toutes les femmes.
Je crois qu'avant de savoir même les résultats, nous pourrons toujours dire qu'Hélène a gagné une chose essentielle. C'est cette confiance en soi que redonne une victoire durement acquise au sortir d'une épreuve qui aurait pu la faire douter un instant de la vie. Bravo Hélène Fajol pour avoir simplement et courageusement montré de par le monde qu'une jeune Française pouvait avec dignité, grâce et élégance lutter sportivement et jusqu'au bout avec 6 garçons.
Jacques Benetin, il y a beaucoup de monde là-haut sur la terrasse Martini, je crois.
Oh, il y a énormément de monde. Actuellement, je vois surtout une couronne de journalistes. Et il y a énormément, beaucoup d'amis qui sont là et qui viennent rendre hommage à nos candidats.
Vous n'avez pas de nom particulier à nous citer? Allô, Jacques Benetin?
Allô, oui, Pierre de Groupe, excusez-moi, je vous entends très mal.
Vous n'avez pas de nom particulier à nous citer? Il n'y a pas de vedette parmi vous en ce moment?
Mais si, je pense bien. Et là, justement, j'avance un petit peu mon micro et je me retrouve dans le milieu d'un groupe composé, tenez-vous bien, d'Henri Salvador, de Sacha Distel et de Félix Martin, qui actuellement sont en train de boire et de célébrer. Oh combien avec énormément de gourmandise, cette réunion de candidats.
Benetin transpire.
Veux-tu finir, toi? Ben, vous voyez qu'ici, l'ambiance est extrêmement gaie.
Il a fait le tour du monde, Henri Salvador.
Nous toujours pas de candidat. Et je vous signale que, actuellement, on me dit que François Perrier vient de faire son entrée sur la terrasse, mais je ne peux pas m'en approcher.
Le premier vainqueur de ce super jeu radiophonique autour du monde s'appelle Jean Portel.
Est-ce que Jean Portel est monté, déjà?
Jean Portel, oui, on me signale qu'il est là. Monsieur Portel, venez. Voilà monsieur Jean Portel, qui est accueilli comme il convient dès qu'il franchit la porte d'arrivée. Bon, eh bien, Jean Portel, je pense que ce dernier étage a été la dernière étape que vous ayez dû franchir pour terminer dignement ce tour du monde.
J'espère, ça va vous grimper encore. Hein.
Et j'ai également à côté, derrière, M. Portel, son avocat, M. Gérard Yvon, à qui je vais demander de conclure, tout au moins à son avis, ce tour du monde.
Eh bien, je suis très fier de Jean Portel, surtout qu'il a pu prouver qu'en plus d'un bagarreur, c'est un poète qui a su cueillir son trèfle à 4 feuilles en prenant d'énormes risques. Ce reportage nous a passionnés, son enthousiasme nous a conquis.
Eh bien, nous vous remercions infiniment. Maintenant, je crois que vous pouvez vous diriger allègrement tous les deux, M. Portel et M. Gérard Yvon, vers le buffet, de façon à arroser comme il convient cette performance que vous avez faite.
Dans mon île, ah, comme on est bien. Dans mon île, on ne fait jamais rien. On se dort au soleil qui nous caresse. et l'en paresse sans songer à demain dans mon île. Ah, comme il fait doux, bien tranquille, près de ma doudou, sous les grands coquetiers qui se balancent en silence, nous rêvons de nous.
C'était Henri Salvador en 1958, dans mon île.
1958, on de la traconte sur Europe 1.
En 1958, Brigitte Bardot n'a que 24 ans, mais elle représente déjà dans le monde la femme française.
On a dit qu'auprès d'elle, Marilyn Monroe avait l'air d'un homme. Discutée dans son pays, elle est considérée dans le monde entier comme la vedette féminine numéro 1. Aux États-Unis, on a même inventé le terme « bardolatrie » pour qualifier l'enthousiasme qu'elle suscite. Car, vous l'avez bien compris, il s'agit de Bébé.
Et en 58, Bébé trouve son havre de paix à Saint-Tropez, la Madrague. Et les auditeurs d'Europe numéro 1 ont le privilège de découvrir cette maison en même temps que son amoureux, le chanteur Sacha Distel.
Ah, ce qu'on est bien ici.
Ah, c'est vrai qu'on est bien ici. Mais quel merveilleux pays, puis quelle merveilleuse maison.
Elle est jolie, hein, ma maison.
Je sais pas. Il y a longtemps qu'il a ?
Non, pas très longtemps. C'est la première fois que j'habite ici. Je l'ai trouvée il y a 6 mois, à peu près. Mais elle était bien, bien cachée et j'ai eu du mal pour la trouver.
Et si tu savais comme moi, j'ai eu du mal pour la trouver.
Ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'on ne me voit, enfin, ne voit la maison ni de la mer, ni de la route, parce que d'abord, il n'y a pas de route. Il y a un vilain petit chemin pour arriver jusqu'ici. Et elle est très, très cachée, alors j'ai l'impression d'être au bout du monde.
Le couple Bardot-Distel est traqué 24 heures sur 24 par les paparazzi. Et le 8 septembre 1958, Sacha Distel est obligé de répondre aux rumeurs qui les annoncent séparés.
Monsieur Distel, tout le monde vous croit à Paris et non pas ici à la Madrague, à Saint-Tropez, en bordure de mer.
Eh bien, écoutez, je suis content que vous me donniez l'occasion de préciser, ou du moins d'apporter quelques rectifications à tous les bruits et fausses nouvelles qui ont pu circuler ces temps derniers.
La fausse nouvelle numéro 1 était évidemment celle de votre rupture avec mademoiselle Brigitte Bardot, qui n'est pas ici, qui n'a pas voulu me lâcher ce micro, c'est pas gentil.
Oh, bah, écoutez, elle se repose, elle se baigne, et tout ça, on ne peut pas lui demander non plus de travailler quand elle est en vacances.
Et donc, rupture?
Non, pas de rupture. À vrai dire, nous sommes allés à Venise ensemble et nous sommes revenus de Venise ensemble dans ma voiture, exactement comme nous étions partis. C'est-à-dire que tous les bruits qui ont pu circuler sans lesquels elle est rentrée soit en train, soit dans une autre voiture que la mienne et sans moi sont absolument erronés. Nous avons été les premiers à en rire quand nous l'avons lu dans les journaux.
Et si on s'aille pour? Pour quand?
Ah ben pour quand, mais ça y est, c'est fait.
C'est fait,
vous arrivez
c'est
trop
fait.
Tard, c'est
les
fait.
Conseils, c'est parfait. Et le mariage est prévu malgré tout.
Ben, vous avez
avant.
Prévu soit décembre, soit juin. Ça dépend surtout de nos obligations professionnelles, puisque moi j'ai une tournée à faire en tant que chanteur, et Brigitte a des films à tourner, dont un à l'étranger, donc en fonction de nos occupations.
Et où, à Paris?
Ah ça, permettez-nous pour une fois de garder ça pour nous.
Vous êtes très indiscret, depuis combien de temps vous connaissez-vous?
Nous connaissons depuis, attendez que je vous dise, depuis plus d'un an, en fait, puisque nous avions fait ensemble le disque du film « Dieu créa la femme ».
Monsieur Distel, vous êtes un jazzman surtout, n'est-ce pas?
Ah, pas seulement, je suis chanteur aussi.
Depuis peu, depuis moins longtemps.
Depuis plus de 6 mois maintenant.
Enfin, disons, non, vous êtes connu malgré tout surtout comme guitariste jazz.
Oui.
Qu'en pense mademoiselle Bardot? Elle aime le jazz.
Ah, elle aime beaucoup le jazz.
Elle aime beaucoup le jazz.
C'est évidemment nous avons quelques petits différends quand même sur nos goûts musicaux, mais enfin rien de grave.
Enfin, rien de grave.
Pas de quoi amener une rupture.
Bien, monsieur Distel, je vous remercie. Je profite de la circonstance pour vous présenter mes félicitations et mes vœux de bonheur anticipés, bien entendu.
Je vous remercie.
Ici Georges Godon depuis Saint-Tropez, Europe numéro 1.
8 jours après cette mise au point de Sacha Distel, sort le dernier film de Brigitte Bardot, En cas de malheur.
Pour la première fois, vous verrez Brigitte Bardot et Jean Gabin réunis dans le même film, En cas de malheur, la production la plus marquante de ces dernières années. Tiré du roman de Georges Simenon, En cas de malheur réunit l'équipe la plus prestigieuse du cinéma français. Jean Orange, Pierre Bost et le réalisateur Claude Autant-Lara, à qui nous devons Le Diable au corps, Le Rouge et le Noir, La Traversée de Paris et tant d'autres chefs-d'œuvre du cinéma.
Dans ce film, Brigitte Bardot est d'une éblouissante beauté. Elle incarne une jeune femme, entretenue par un avocat quinquagénaire, joué par Jean Gabin, le dab du cinéma français. Le film aux propos scandaleux est interdit aux moins de 16 ans, et un plan où on voit les fesses nues de bébé est coupé par la censure. Et évidemment, tout ça contribue à faire du film un succès. Plus de 3 millions de spectateurs et une critique élogieuse. Mais la sulfureuse prestation de Brigitte Bardot déchaîne les ligues de vertu. Bardot est traitée d'obscène sorcière. La jeune actrice est blessée. Elle en parle au dab, qui lui répond « Bah c'est pas grave, la môme. Laisse-les causer. Ils construisent ton mythe. » À suivre, le tour des nouveautés de l'année 58 et, juste avant, Chuck Berry qui faisait gâcher le monde entier cette année-là.
They're really rockin' in Boston. In Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, and round the Frisco Bay, all over St. Louis, and down in New Orleans, all the cats gonna dance with sweet little 16, sweet little 16. She just got to have about a half a million famed autographs, her wallet filled with pictures. She gets them one by one, becomes so excited. Watch her look at her run, boy. Oh, mommy, mommy, please may I go? It's such a sight to see somebody steal the show. Oh, daddy, daddy, I beg. Whisper to mommy, it's all right with you. But they'll be rocking in Boston, Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, and round the Frisco Bay, way out in St. Louis, way down in New Orleans. All the cats wanna dance with sweet little 16.
C'était Chuck Berry.
1958, On de la traconte sur Europe 1.
Voici donc la liste de nouveautés qui datent toutes de l'année 1958. On commence par les nouveautés en matière automobile, en allant du côté de la porte de Versailles au salon de l'auto 58.
À Paris, le président de la République a été l'un des premiers visiteurs du 45e salon de l'automobile, un salon sans révolution. Moins démonstratif, le président Coty s'est borné à caresser du regard les lignes qui, en se libérant de plus en plus volontiers du toit, affinent leur élégance. C'est sous ce signe de l'élégance qu'il faut placer les quelques nouveautés décapotables. Côté accessoires, le phare code européen, relevé sur la droite, accroît la portée de la luminosité vers le bas-côté et apporte une sécurité supplémentaire. Chez Simca, l'écurie Aronde est présentée au grand complet avec la nouvelle née, la Monaco P60, que la Benjamine de la chanson, Rosita, a pu contempler de plus près grâce à la complaisance de Raymond DeVos. Salon sans histoire, mais où bien des rêves sont possibles. Rêve de vitesse au volant d'une Jaguar, par exemple, d'une Jag, comme disent certaines. Les voitures de grand sport, de la Ferrari à l'Alfa Romeo, sont là pour alimenter toutes les imaginations. Le rêve de la vitesse n'est-il pas le rêve de notre époque ?
Et pour rester dans la thématique automobile, c'est à partir de février 1958 que les conducteurs de voitures doivent avoir une assurance.
Bonjour, voulez-vous venir avec moi ? Je vais vous présenter une petite merveille, la 4 chevaux Renault. Voulez-vous monter? Confortablement installé? Alors, allons-y. Au volant d'une 4 chevaux, on est tout de suite à son aise. Il n'y a pas au monde de voiture plus féminine, plus facile à conduire. C'est aussi la voiture de l'homme d'affaires qui n'a pas de temps à perdre. Quel démarrage! Alors, bonne route. Je suis sûre que la 4 chevaux vous étonnera. Et seulement 6 litres aux 100 km.
En 1958, c'est aussi la première fois qu'un homme politique s'adresse aux Français via la télévision. Et évidemment, il s'agit du général de Gaulle. Nous sommes le vendredi 13 juin 58. De Gaulle vient de revenir au pouvoir il y a 12 jours à peine, comme chef de gouvernement.
L'unité française se brisait. La guerre civile allait commencer. Aux yeux du monde, la France paraissait sur le point de se dissoudre. C'est alors que j'ai assumé la charge de gouverner notre pays. Le drame de l'Algérie, bouleversant les populations, mettant l'armée à dure épreuve, soulevant sur place une vague d'indignation pour ce qui était du présent, de changement et de fraternité pour ce qui était de l'avenir, a déclenché cette crise nationale, mais de toutes les manières, celle-ci devait éclater.
Et puis, le 15 octobre 1958, arrive tout droit des États-Unis le concept de supermarché. Le premier supermarché ouvre à 15 km de Paris, à Ruelle Malmaison.
Bonjour à tous, chers clients. Les établissements Roulet-Turpin sont ravis de vous accueillir dans l'Express Marché. Ici, le poulet se vend rôti. Nos fruits sont frais et à portée de main. Alors, bienvenue.
L'Espagne exporte son soleil par ses oranges. La qualité maximum exportée se trouve dans l'orange Aïda. L'orange Aïda, uniquement cultivée en montagne avec les seuls engrais naturels, possède une richesse en vitamines extraordinaire. Au dessert, dégustez une orange Aïda. C'est encore ce qu'il y a de meilleur. Vite, une orange Aïda dans le cartable. Voilà une agréable récréation en perspective. Et avant d'aller au lit, le jus d'une bonne orange Aïda vous fera plus de bien qu'une tisane. Aïda, les douces oranges que voilà.
Côté innovation, l'ORTF, la télévision de l'époque, n'est pas en reste. Le 1er janvier 1958 apparaît une série mythique, Les 5 dernières minutes. Ça se regarde comme un polar. Et ça se résout comme un cluedo.
Allô, police judiciaire? Passez-moi un inspecteur de service, s'il vous plaît. Merci. Allô, ici le docteur Brignot, 117 avenue Mozart. Je vous téléphone de chez mademoiselle Vatier, 22 rue Poussin.
Oui, attendez, passez vite, je prends note. Vous dites Brignot avec un nom?
Non, non, E-A-U, Vatier, T-H-I-E-R.
Et qu'est-ce qui se passe chez mademoiselle Vatier?
Un empoisonnement.
Ah, et bien bonne publicité, ça, je vois déjà les gros titres demain matin. Le suicide du réveillon.
Alors, à mon avis, il ne s'agit pas d'un suicide.
Ah. Bon, la rue Poussin, c'est bien dans le 16e. Ouais. Eh bien, je serai là-bas dans un quart d'heure, 20 minutes.
Ah, mais je serai parti.
Comment vous serez parti? Ah oui, c'est vrai, vous n'êtes pas de service. Bon, docteur, ayez l'amabilité de veiller à ce qu'on ne touche à rien, n'est-ce pas? Et vite, dites-moi, docteur, je peux avoir besoin de vous joindre cette nuit. Où puis-je vous appeler? Voulez-vous me donner votre numéro de téléphone?
Auteuil
1710. Merci, docteur. Et dites-vous bien que je peux vous appeler à n'importe quelle heure de la nuit. Je suis désolé, mais...
Au revoir, inspecteur.
Au revoir, docteur, et bonne année quand même.
Raymond Souplex incarne le commissaire Antoine Bourrel. Le son n'est pas extraordinaire, mais normal. Les 5 dernières minutes sont jouées en direct. Tous les acteurs sont dans le même studio. Et à 5 minutes de la fin de l'épisode, le commissaire Bourrel lance sa célèbre phrase...
Bon Dieu, mais c'est bien sûr.
Et après cette phrase, rideau. Le nom du coupable reste à deviner par deux téléspectateurs qui sont dans le studio. Ils donnent leur conclusion et ensuite les acteurs reprennent le jeu pour la réponse. Au total, la série Les 5 dernières minutes a survécu 38 ans. Et puis, autre nouveauté de 58 du côté d'Europe numéro 1. C'est cette année-là qu'Albert Simon devient le monsieur météo de la station.
En cette fin de semaine,
Le beau temps prévaudra sur la majeure partie de la France. Le temps sera ensoleillé et chaud en général, à l'exception de quelques orages qui éclateront en fin de journée sur la Normandie, dans le Nord, sur les Ardennes, la Champagne et la Lorraine.
Et pendant 28 ans, Albert Simon incarne la météo d'Europe 1 dans un style, comment dire, inimitable.
La température sera en hausse. Il fera 19 degrés à Caen cet après-midi, 23 degrés à Paris, 23 degrés également à Orléans, 25 à Strasbourg.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1958.
En 58, en pleine guerre froide, la conquête spatiale fait rage entre Américains et Soviétiques. Qui sera le premier à envoyer un homme dans l'espace? Et pourquoi pas un jour sur la Lune? Au début de l'année 1958, les Américains prennent la conquête spatiale très au sérieux. Et pourquoi? Eh ben parce qu'ils sont en retard. En novembre 57, l'année dernière, les Soviétiques ont envoyé leur Spoutnik 1 dans l'espace, avec à bord la chienne Laïka, premier animal à être placé en orbite. Le 29 juillet 58, pour combler leur retard, les États-Unis créent la NASA et ils lancent le programme Pioneer. 17 août 58, la fusée Pioneer 0 est lancée. C'est un échec. Elle explose à 15 km d'altitude. Le 11 octobre 58, nouvel essai américain. Pioneer 1 est propulsé par le lanceur Thor Hubble.
À Cap Canaveral en Floride, ce matin à 4h42 heure américaine, 9h42 heure française, les forces américaines de l'air ont lancé une fusée Thor Hubble, destination la Lune. Nous nous transportons maintenant à Cap Canaveral, quelques secondes avant le lancement. Dans le blockhouse d'observation, le reporter de la National Broadcasting Company communique.
3, 2, 1. T-minus 0, fire, there's blast off. And the moon rocket is covered with fire and smoke. The Thor Hubble rises from its pillar of thrust without the slightest deviation from its predetermined course. You can hear its mighty voice in the background, thundering into space. The rocket is lighting the sky with a brilliance that can be seen in Miami. The light is so bright that everyone is forced to cover their eyes, but they still try to watch the graceful bird as it penetrates the jet black night as it continues upward.
Vous avez entendu le départ. Les journaux new-yorkais du dimanche paraissent sur une moyenne de plus de 200 pages. Ceux de ce matin chantent les louanges de la science américaine. Depuis hier soir à 19h05, on sait officiellement que le Pioneer n'atteindra pas la Lune et qu'il deviendra très probablement un satellite de la Terre, satellite dont la durée pourrait devenir indéfinie si l'allumage de la dernière partie de la fusée pouvait permettre de modifier l'orbite. Mais les Américains sont satisfaits. L'homme de la rue, sans s'intéresser aux détails, a appris que son pays a réalisé quelque chose que les Russes n'ont pas encore fait. Cela efface quelque peu l'affront du premier Spoutnik. Le président Eisenhower fut informé du lancement du Pionier hier alors qu'il passait son week-end dans les montagnes du Maryland. « C'est un grand jour pour les États-Unis et le monde libre », aurait-il déclaré. On procède actuellement aux États-Unis à de nombreuses expériences pour évaluer la résistance humaine dans les conditions d'un tel voyage. Le Pionier est un échec qui n'a jamais été autant glorifié et n'a jamais causé autant de satisfaction et de fierté dans l'opinion publique américaine. Ici Jacques Tellier à New York, Europe numéro 1.
Il s'agit maintenant de voler vers la Lune. Le 8 novembre 1958, nouvelle tentative avec Pioneer 2. Nouvel échec, la fusée ne décolle même pas. Et le 6 décembre, c'est au tour de Pioneer 3 de partir vers la Lune. Europe numéro 1 est aux premières loges.
À minuit 45, heure de New York, 6h45 ce matin à Paris, une autre fusée quittait la plateforme de lancement à Cap Canaveral en Floride. Jay Barbary, le reporter de la NBC, est sur la plage et décrit la scène.
Here it comes. The Army's boom rocket is lighting the sky with a brilliance that can be seen hundreds of miles away.
Tout s'est passé normalement. Flammes et fumées tout d'abord enveloppent et cachent en partie les 30 mètres de la fusée. Celle-ci reste immobile pendant des secondes qui semblent des siècles, Puis, lentement, très lentement, elle se lève droite, pointant vers le ciel de Floride. Les flammes de l'échappement, qui étaient d'un rouge sombre, sont maintenant oranges. L'ascension s'accélère à une vitesse énorme. Le ciel entier semble illuminé. La gorge se serre, les nerfs sont tendus, et dans beaucoup d'esprits des spectateurs, un curieux mélange de fierté, de crainte et de doute se produit devant un tel spectacle. 110 secondes, le premier étage de la fusée vient de s'éteindre, il se détache et tombe à la mer. Tout semble normal, la fusée a maintenant disparu.
Et maintenant, question. Y a-t-il un lien entre l'exploration spatiale qui bat son plein et cette boule de feu que deux hommes aperçoivent près de la gare de l'Est, à Paris?
Me trouvant en place du 11 novembre, vers 17h, j'ai vu une boule de feu de la grosseur de 2 points environ qui venait de l'ouest et qui a pris contact avec le sol à environ 5 mètres de moi sur la place du 11 novembre. Vraiment à ce moment-là, vous m'entendez, j'ai pas pensé au Spoutnik comme il y en a qui en ont parlé, mais j'ai supposé à ce moment-là que c'était un météore qui était tombé, quoi. Je me suis précipité et j'ai cherché si je pouvais trouver des restes de cette boule qui, en tombant, a émis de nombreuses étincelles. Mais je n'ai rien trouvé. J'en ai parlé à une personne qui se trouvait là, elle me dit que j'avais eu des visions. Enfin, il y a l'épicier d'en face, M. Willmann, je crois, qui a eu soi-disant la même hallucination que moi, mais qui s'est précipité également et nous n'avons rien trouvé.
On s'est précipité pour aller voir sur les lieux ce qui restait de la boule. Et je me suis trouvé avec M. Grenot. Nous avons constaté qu'il n'y avait aucune trace de brûlure ni de rien du tout sur le goudron. Elle a tombé très doucement. On était très rouge, alors étincelante. Quand elle est arrivée sur le sol, alors c'est là qu'on a vu les étincelles.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1958.
C'était La Bamba, reprise en 1958 par Ritchie Valens.
Europe 1, on de la traconte, l'année 1958.
Nous avons exhumé de nos archives une histoire de Clochemerle. Ça se passe en décembre 58, à Saint-Maxir, à 15 minutes de Niort, où le maire et le curé s'écharpent autour de la cloche du village. Du Pagnol, mais sans cigales, sans pastis, mais avec accent.
Monsieur Mittard, vous êtes maire de la commune de Saint-Maxir. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots ce que c'est que cette histoire de cloche?
Monsieur le curé, parce que le conseil municipal ne voulait pas faire refondre la cloche ailée, n'est-ce pas, s'est permis de la faire descendre sans que le conseil municipal le sache. Il n'avait pas le droit de le faire, n'est-ce pas, puisque la cloche appartenait à la commune. Alors, le conseil s'est réjambé parce que il disait Ce n'est tout de même pas le curé qui doit administrer la commune, mais le maire et le conseil municipal. Le conseil municipal a quand même accepté la chose faite, mais il avait demandé à M. le curé de faire mettre la cloche à la mairie quand elle s'est revenue d'Annecy. À ce moment-là, le conseil municipal ferait arranger le beffroi pour la suspension des cloches. M. le curé n'a jamais voulu accéder à cette demande, il l'a fait cacher la cloche même. J'ai eu beau insister, prier, supplier M. le curé de donner satisfaction au conseil, M. le curé n'a jamais cédé. Sur ce, il a déposé la cloche à l'église, le conseil est allé la chercher à l'église pour l'amener à la mairie. Et on lui a pas fait de mal à la cloche, ils avaient peur qu'on la casse. Et quand le beffroi a été refait, eh bien, on a monté la cloche, au frais de la commune.
Depuis cet épisode de la guerre de la cloche, le curé et le maire sont en froid. Et le maire a trouvé un nouveau sujet de discorde, la cantine scolaire. Il ne veut plus y accueillir les élèves de l'école privée du curé. Et ma foi, le droit est avec lui.
Je n'ai pas observé la loi de 1886 sur l'instruction publique. Du moment que la cantine a été fondée par le conseil municipal et que le local était une dépendance de l'école publique, nous ne devions pas y recevoir les élèves de l'école privée. Moi, je ne demande qu'une chose, c'est d'avoir la paix dans ma commune.
Monsieur l'abbé Francino, je crois que vous êtes le curé de Saint-Maxir, et évidemment j'aimerais avoir votre opinion dans cette affaire.
Sur 46 élèves qui fréquentaient cette cantine scolaire, eh bien 21, je crois même 23, viennent demander maintenant leur repas de midi à la cantine scolaire de l'école libre. Nous sommes d'accord, les parents et moi-même, pour qu'il n'y ait pas de difficultés nouvelles, nous allons faire une cantine scolaire. J'ai reçu un peu d'argent pour faire une cantine scolaire, mais attention, il n'y a pas de différence entre maire et curé. Mais ici, le différent, c'est le maire et le comité de parents d'élèves.
Je vous remercie beaucoup, monsieur l'abbé. Ici Philippe Alirol de Centre Presse, qui vous a parlé de Saint-Maxir, Europe numéro 1.
Que sera, sera, qui vivra, verra, dans le berceau d'un vieux château, une promesse vient d'arriver, une princesse tout étonnée, à qui l'on vient chanter, que sera, sera, demain n'est jamais bien loin, laissons l'avenir venir. Sera, sera, qui vivra, verra. Que sera, sera.
C'était Lynn Renault avec Que sera, sera en 1958. Je remercie Guillaume Maury, Julien Pichenet et Guillaume Vasseau de m'avoir aidé à vous présenter cette émission. La suite de notre visite privée de l'année 1958 dans le quatrième épisode d'Onde la Traconte, une année.
Retrouvez Onde la Traconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.